France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
C'est le propre de la petite enfance que de laisser des images d'une précision absolue, mais dont l'adulte ne sait que faire. Marcel Cohen fait pourtant un usage bouleversant de cette matière laissée par l'enfance. Dans la scène intérieure de son livre, cette fois-ci, c'est le souvenir de cinq femmes qui scintillent. Cinq femmes à qui il dit tout devoir. Des femmes qui l'ont accueilli, aimé, protégé, éduqué, au plus atroce de la Seconde Guerre mondiale, comme après. Il compose un livre saisissant sur elles, sur nous, sur l'histoire et sur lui finalement, car écrit-il, comment ne pas parler de soi quand on est à la fois l'intéressé et le seul témoin. Marcel Cohen est notre invité aujourd'hui. Vers 15h50, comme chaque lundi, nous avons rendez-vous avec Emmanuel Laurentin. Il ouvre un ou plusieurs livres à la faveur d'une actualité. Aujourd'hui, il nous parle aide financière aux thésards des thésards en relisant un roman d'Anne Urbain qui s'appelle La Soutenance. Et à la fin de l'émission, on cherche de la musique dans les livres et on en trouve grâce à vous. Voilà, vous avez le programme. On est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Marcel Cohen.
Bonjour.
Votre livre « Cinq femmes » à Paris aux éditions Gallimard, il est le deuxième tome de ce qu'on appelle la scène intérieure, on y reviendra tout à l'heure. L'apprentissage de la lecture y est directement évoqué dans certaines pages et même la relation à la lecture y est évoquée. Il se trouve qu'ici, l'émission Le Book Club commence tous les jours par ce qu'on appelle un grand questionnaire de lecture. Est-ce que vous vous souvenez où et quand vous avez appris à lire Marcel Cohen ?
Absolument et de manière tout à fait précise. Puisque j'ai conservé le livre dans lequel j'ai appris à lire, je peux même vous lire un extrait si ça vous intéresse.
Parce que vous en reproduisez en effet un petit extrait dans votre livre Cinq femmes. C'est quand même.
C'est un livre qui s'appelle qui s'adresse aux tout petits débutants. Alors, le texte n'est pas d'un intérêt absolument évident, mais vous allez le voir, mais. Il s'agit de faire comprendre à des enfants que TH se prononce T et pas ce, comme on dirait en anglais. Alors c'est donc Thomas a acheté du thon. Théodore a mangé trop de cerises. Il vomit. Le T de mi ne se prononce pas, n'est-ce pas? Non. Bon. Sa mère lui donne à boire du thé chaud, du sucré. Théodore ne sera plus gourmand. C'est difficile à lire parce que les syllabes sont séparées.
Oui, et alors, que le sens ne prévaut pas, on entend bien que c'est
si
un
souvent.
Exercice.
Alors, je lis par exemple là, Marthe a une jacinthe, toute fleurie dans un vase. La petite fille a dit à sa maman « Tiens, voici ma jacinthe pour ta fête.
» Vous aviez gardé ce livre, Marcel Cohen ?
Ça n'a pas un intérêt évident. Mais c'est ce que j'ai lu en tout premier lieu.
C'était où et quand ?
Alors, c'était à Vaujour, à 25 kilomètres de Paris, dans la banlieue nord-est. À la fin de la guerre, entre 45 et 47. Mettons 45, peut-être début 46.
Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de ces premiers déchiffrages, de ce premier accès à la lecture ?
Aucun souvenir heureux. Hein. C'était laborieux, ça n'avait pas beaucoup de sens. Je trouvais que c'était un petit peu ridicule, ce petit garçon qui vomit parce qu'il est trop gourmand. Et puis cette petite fille qui offre une jacinthe à sa mère, je trouve que c'était vraiment... Ça faisait rire, enfin c'était un peu cucu pour parler vulgairement. Bon voilà, donc non, pas de souvenir particulier.
Vous avez entretenu quoi comme relation avec la lecture ensuite ?
Alors ensuite, quand j'ai su lire... Et il m'a fallu du temps pour apprendre à lire tout à fait couramment. Je suis passé directement de ce livre de lecture courante à François, parce que j'ai été pris en charge par une femme dont je parle longuement dans ce livre, qui s'appelle Madame Gobin. Madame Gobin était une institutrice à la retraite. Les manuels scolaires, elle ne pouvait plus les voir, hein, c'était pas possible. Elle ne voulait même pas en entendre parler, elle les cachait chez elle. Et elle estimait que, comme j'étais un peu âgé et très en retard, elle estimait que les livres de lecture courante pour les enfants de mon âge n'étaient plus de son âge, ni du mien. Donc on lisait François. Et elle me reprenait chaque fois que j'écorchais un mot ou un nom. Voilà. Jusqu'au moment, ça c'était le soir très tard, jusqu'au moment où je lisais donc François, jusqu'au moment où elle s'endormait. Voilà.
Après François, est-ce qu'il y a eu une forme d'entrée dans la littérature pour vous ?
Alors, après François, il y a eu un choc, évidemment. Je m'en souviens très bien, c'était Baudelaire. Je crois que c'est le premier poète un peu sérieux que j'ai lu. Je me souviens, évidemment, de l'invitation au voyage. Bon. Mis en musique par Henri Duparc. Comment ne pas être tout à fait rêveur, même quand on n'est qu'un petit garçon, sur le « là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté ». Bon, voilà. « Mon enfant, ma sœur », alors ça aussi, ça parle. Il se trouve que j'avais une sœur qui a été déportée, elle aussi. Bon, voilà, les lectures d'enfants, c'est... celles qui m'ont vraiment marqué, c'est Baudelaire. Et puis après, alors, il y a une grande zone. Je crois que c'est Anatole France, que je n'aimais pas, que je n'ai jamais aimé, que aujourd'hui encore, je n'aime toujours pas. Parce qu'il y avait les œuvres complètes d'Anatole France chez Madame Gobin, dans ma chambre, quand j'étais très jeune, après la guerre. Et que je trouvais qu'il fallait... devenir un peu sérieux, et qu'Anatole France était peut-être un bon moyen. C'était une lecture qui s'adressait évidemment à des adultes, donc on pouvait devenir adulte plus vite si on lisait des livres pour adultes.
Est-ce que cette croyance a perduré ? Est-ce que vous avez voulu devenir adulte en lisant d'autres livres pour adultes, Marcel Cohen, et lesquels ?
Alors oui. Parce que je trouvais que les livres étaient infiniment plus sérieux que les adultes. Quand j'étais le seul enfant au milieu d'adultes, je trouvais que vraiment, ils disaient des choses absolument insupportables. Ça n'avait aucun intérêt. Ils parlaient de leurs affaires, ils parlaient d'argent, ils parlaient de transport, ils parlaient de vacances, ils parlaient autant de choses qui, à mes yeux, n'avaient strictement aucune importance. Alors que dans les romans, on parlait d'amour, on parlait de la mort, on parlait de la guerre, on parlait de choses extrêmement graves, dont je me souvenais un petit peu, bien sûr, parce que même les petits garçons sont amoureux des petites filles. Voilà, donc ça me parlait.
Est-ce que vous vous souvenez singulièrement avoir appris quelque chose dans un livre, quelque chose qu'un livre a déposé en vous pour la vie?
Alors, je ne me souviens pas très bien, mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai découvert subitement, à la fin de la sixième, ou peut-être en cinquième, qu'il y avait aussi des poètes vivants. Tous les poètes qu'on lit au lycée sont morts. C'est comme le latin, ça ne sert plus à rien. Donc, je pensais que la poésie, c'était fini. Un jour, dans une grande librairie, je suis tombé sur un livre de Guilvic. Je l'ai lu avec d'autant plus de passion que, évidemment, on ne pouvait pas ignorer qu'il était vivant. Rien qu'en lisant ce qu'il pouvait dire lui-même dans ce livre. Et puis, il parlait de quelque chose qui m'avait marqué plus jeune, c'est le cochon qu'on assassine.
Dans un poème qui s'appelle « La mort du cochon ».
Oui, non, il s'appelle
« La mort du cochon ».
Enfance. Ah oui. S'appelle Enfance.
Alors ça commence par la mort du cochon. C'est le premier vers.
Voilà, oui, oui.
C'est ça, la mort du cochon.
Et du cri qui n'en finit pas. Mais je crois que le poème, si mon souvenir est exact, peut-être que le
vôtre
est plus exact.
Non, c'est votre souvenir qui est le plus exact. Vous avez l'air d'être plus exact sur
mon souvenir. Je crois que le poème s'appelle Enfance.
D'autant plus qu'à la fin du poème, si je me souviens bien, il évoque justement l'idée selon laquelle ce cri interminable de cochon qu'on égorge semble normal pour tout le monde, sauf pour l'enfant.
Sauf pour l'enfant, c'est absolument inadmissible, c'est terrifiant. Et il se trouve qu'on a tué un cochon à Messac où j'étais réfugié pendant la guerre. Et j'étais réfugié au fond du jardin et j'entendais le cri, ça me semblait le comble de l'horreur. Et bien des années plus tôt, Gilvic avait ressenti la même chose à Carnac, où il est né et où il a passé sa toute petite enfance.
Qu'est-ce que ça a changé pour vous profondément, Marcel Cohen, de pouvoir lire des personnes qui écrivent de leur vivant ?
Alors, il me semblait que c'était les seules personnes un peu sérieuses, enfin, les seules grandes personnes un peu sérieuses. D'une part, parce que je sentais confusément qu'écrire, ça prend du temps. Donc, c'est pas une parole qui échappe. Ça prend du temps, ça demande du travail. C'est donc une parole qui est plus vraie que la parole orale. Et bien des décennies plus tard, j'ai fait la connaissance d'un poète qui s'appelle Edmond Jabès. Et Edmond Jabès dit cela, ça m'a beaucoup frappé, parce qu'il dit « écrire, c'est tenter de parler pour la première fois ».
À chaque fois.
Chaque fois. Là, on ne dit plus de bêtises. Voilà. C'est plus du bavardage.
D'une certaine manière, lire Guy Vic ou prendre connaissance de poètes ou de poétesses écrivant en même temps que vous, vous vivez, Marcel Cohen, est-ce que ça vous a mis sur la piste de l'écriture, de votre écriture ?
Alors oui, fatalement, et sans que j'en sois conscient, bien évidemment. Mais... lire et écrire, c'est exactement la même chose, c'est la continuation. C'est parce qu'on a lu beaucoup de livres quand on était enfant et donc très influençable quand on devient un jour écrivain. L'envie d'écrire ne vient pas comme ça du tout.
Vous vous souvenez de l'envie d'écrire, vous ?
Très jeune, comme tous les futurs écrivains, je crois que j'ai toujours voulu écrire. Vous dire quand exactement, je ne sais pas. Mais très jeune, il m'a semblé que c'était sans doute l'activité la plus intelligente pour un adulte. Et puis, par la force des choses, comme j'avais lu aussi beaucoup et de très bons livres, c'était impossible. Et parce que c'est impossible... Et que c'est extrêmement sérieux, c'est...
Désirable.
C'est désirable. Donc,
évidemment, c'est la formule magique.
On ne veut qu'une chose, c'est de devenir écrivain.
On va évoquer votre dernier livre, « Cinq femmes sur la scène intérieure 2 », sous-titré « Fait », Marcel Cohen. Juste après cet air, c'est un air qui s'appelle « Sur la mer calmée » de Madame Butterfly de Puccini, interprété par Gregory Bouet.
Voici qu'on peut distinguer dans la foule. Que dit-il? Je l'entends, Butterfly, sans qu'il me croie. Moi, je ne sais cachant mon émotion trop vive, par badinage et pour ne pas mourir. Par son de verre.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Il m'est arrivé de rencontrer des hommes admirables. Cependant, les seuls êtres à qui j'ai conscience de tout devoir sont des femmes. Elles se sont comportées à mon égard avec tant de naturel, de détermination et l'une d'elles de courage, que j'ai pu sous-estimer longtemps à quel point rien n'allait de soi. Orphelin et enfant, caché pendant la guerre, je n'acceptais ni l'autorité des hommes qui se substituaient à mon père, ni l'attachement des femmes qui avaient les gestes de ma mère. Que l'on tentât de m'imposer une volonté ou que l'on fît preuve à mon égard de trop d'affection, revenait au même. C'était insupportable et je prenais la fuite. Alors il y a des fugues et des liens dans ce nouveau livre Marcel Cohen, deuxième tome de cette scène intérieure dont le premier tome réunissait tout ce que vous avez pu trouver sur la vie de vos parents, votre sœur, vos grands-parents paternels et une grande tante, tous tués à Auschwitz. Ce nouveau livre s'appelle « Cinq femmes », on continue d'en parler avec vous, il a paru aux éditions Gallimard. Dans ce texte en préambule, Marcel Cohen, vous dites qu'il vous a fallu du temps pour comprendre que rien n'allait de soi. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu un moment précis, un moment qui serait déclencheur de l'écriture, où il vous est apparu comme une évidence que rien n'allait de soi dans ces gestes de courage, de bonté, dans toutes ces manifestations diverses d'amour qu'ont eues ces femmes dans votre parcours?
Je ne saurais pas le situer exactement cette prise de conscience, mais je me suis trouvé un jour chez des amis à un dîner, et mon voisin de table, que je ne connaissais pas, m'a fait parler un petit peu de moi. Je lui ai parlé de Madame Gobin, qui m'a introduit dans le cursus normal, scolaire, pour un enfant. Je lui ai raconté comment elle m'a pris en pension chez elle pendant un an, et elle m'a fait faire, finalement, en un an, une scolarité élémentaire normale et accélérée. Il a estimé qu'une femme que je ne connaissais pas, qui se charge d'un enfant, qui le prend chez elle en pension pendant un an, avec la volonté de le faire entrer en sixième, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Il m'a convaincu qu'il fallait écrire quelque chose sur cette femme. Et puis, je me suis souvenu des quatre autres femmes qui avaient compté dans ma vie. Je ne parle pas de mes relations amoureuses, ça c'est un autre problème.
Chose, ouais.
C'est ma vie d'adulte et ça c'est tout à fait autre chose. Mais je parle des femmes qui vraiment me sont venues en aide au moment où j'en avais vraiment besoin. Voilà, donc j'ai pensé que cet inconnu à mes côtés, à table, avait raison. Et j'ai fait le recensement assez facile à faire des cinq femmes qui avaient compté le plus.
Mais est-ce que ça raconte, Marcel Cohen, qu'il n'y a que après un certain temps passé, et peut-être un peu d'âge, que quelque chose dont on ne pouvait pas mesurer sur le moment, le caractère en fait exceptionnel, se révèle comme tel ?
Oui, vous avez raison. Oui, c'est tout à fait ça.
Encore faut-il considérer que c'est exceptionnel ? Est-ce qu'il faut considérer que c'est exceptionnel ?
Alors, vous savez que la première femme
Annette.
Qu'on trouve dans le livre, c'est Annette. Annette était, comme on disait à l'époque, bonne à tout faire chez mes grands-parents paternels. Et puis, lorsque ma famille a été déportée, elle s'est retrouvée donc sans travail. Elle est retournée chez son mari en Bretagne. Et elle m'a fait venir en Bretagne. Alors, il faut se souvenir, les auditeurs ne le savent peut-être pas, que cacher un enfant juif pendant la guerre, c'était passible de la peine de mort. Donc, ce n'était pas du tout anodin. Il y avait une petite garnison allemande dans le bourg d'Ille-et-Vilaine où elle habitait avec son mari. Donc, ce n'était pas anodin du tout. Il fallait le faire. Il fallait beaucoup de précautions. C'était un travail de réflexion, de sang-froid, de, Voilà, c'est-à-dire il n'y avait pas une journée sans crainte, une journée qui se passerait, qui se déroulerait tout à fait normalement. Voilà, et ça a duré 2 ans, de 43 à 45, en gros.
Quand je pose la question du caractère exceptionnel, c'est évidemment pas du tout pour ni diminuer le courage, ni oublier le contexte atroce dans lequel Annette et les autres font ces gestes-là, mais aussi parce que vous inscrivez tout ça, Marcel Cohen, dans une réflexion profonde sur ce que c'est que l'humanité et les liens des êtres les uns avec les autres. En l'occurrence, des adultes avec un enfant devenu subitement orphelin. Et c'est pour ça que, quand je dis exceptionnel, c'est que, d'un seul coup, dans votre livre, ce qui devient exceptionnel, ce qui devient en dehors de l'entendement, c'est l'atrocité nazie, c'est les arrestations, et ce qui devient ce qu'on regarde avec le plus de précautions, de soins, c'est tous les menus gestes, jour après jour, qui devient l'humanité. Vous voyez, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais
oui,
c'est comme si ça, c'est comme si ça, pour moi en tout cas, pour la première fois, ça me permettait presque d'inverser le regard en me disant ce qui est exceptionnel, c'est l'horreur, et ce qui devrait être regardé comme le continuum de notre humanité, ce sont les gestes de ces femmes.
Alors, je crois que je vois ça à peu de choses près comme vous. Et c'est terrible à dire, mais l'horreur, nous y sommes habitués. C'est à la bonté que nous ne sommes plus habitués. C'est terrible. Les bons sentiments, on les voit à peu près également répandus partout. Comment dire ? Mais le philosophe Emmanuel Levinas dit que les bons sentiments, ce sont des petites sonnettes d'alarme. Si on n'en fait rien, ça n'est rien, ça passe. Or, dans ses cahiers, Paul Valéry s'est interrogé sur la bonté. Et la bonté, c'est quelque chose qui n'est pas, qui ne suit pas naturellement les bons sentiments. Mmh. C'est quelque chose qu'il compare à un coup de hache dans la glace. Ça brise quelque chose. Et il y a 3 femmes, au moins dans ce livre, qui ont dû prendre des résolutions rapidement, sans trop réfléchir aux conséquences, ni pour elle, ni pour moi, etc., comme un coup de hache dans la glace. Et c'est ça qui me frappe. Annette, qui prend le risque de me cacher chez elle pendant la guerre, Madame Gobin, qui me réintroduit dans le circuit scolaire, et Raymonde, alors j'aurais dû la citer d'abord, mais Raymonde qui prend le risque d'avoir chez elle la garde d'un enfant qui fugue et de ne prévenir personne. Parce que prévenir ma famille, c'était inciter ma famille à chercher un établissement pour enfants difficiles. Par enfant difficile, on entend jeune délinquant, hein, jeune voleur, on entend aussi enfant retardé scolairement. Alors elle estimait que ce n'était pas ce qu'il me fallait. Donc,
de même, elle n'appelait pas la gendarmerie qui aurait conclu à la même nécessité de vous placer en internat.
Voilà, alors vous imaginez un homme, une femme qui sont chez eux toute la journée et qui attendent que l'enfant veuille bien rentrer. Il faut le faire. Ils ont appelé 2 fois la gendarmerie, mais pas 3, parce que 3, c'était déjà trop. Alors, ce sang-froid, ce courage, et ce fardeau énorme sur les épaules, ça ne va pas de soi. Hein. C'est vraiment quelque chose qui appelle une admiration très profonde. Voilà ce que je peux dire.
Je voudrais qu'on écoute la voix de Grégory. Il a lu votre livre, Marcel Cohen, et il vous adresse quelques questions, quelques remarques de lecture et quelques questions.
Bonjour Marcel Cohen. C'est Grégory de la librairie Le Bonheur à Montrouge. J'ai donc adoré Cinq femmes ainsi que les précédents livres que j'ai lus de vous. J'y retrouvais tout ce que j'aime dans votre travail et qui, je crois, le caractérise, c'est-à-dire certaines façons de vous méfier de la littérature, votre art de nous restituer des situations, toujours en passant par des détails, par des petits objets, des gestes, et puis ensuite de laisser le soin au lecteur de s'arranger avec ça, de recomposer un ensemble avec ce que vous lui dites et surtout ce que vous lui dites pas et qui probablement ne peut pas être dit. Et puis toujours l'absence dans votre œuvre, comme l'éléphant dans la pièce. Diriez-vous, Marcel Cohen, que le silence se niche aussi dans vos détails? Qu'en dites-vous?
Merci beaucoup, Grégory, de nous avoir adressé cette question, de l'avoir adressée à Marcel Cohen, je vous en prie.
Le silence est important, c'est même très important. Vous vous souvenez que Wittgenstein, le grand philosophe, le grand logicien, dit « ce qu'on ne peut pas dire, il faut le taire ». Alors évidemment, ça coupe un peu l'herbe sous le pied à un écrivain, mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire et qu'il ne faut peut-être pas dire, parce qu'il faut laisser le lecteur, et laisser un lecteur sensible et intelligent comme vous, Grégory, il faut lui laisser de l'espace où il peut s'engouffrer, où il peut interpréter le texte. J'ai même envie de dire où il peut écrire le texte. Je crois que le vrai auteur d'un texte, c'est le lecteur. Puisqu'il est seul dans son coin avec le livre, et qu'on ne peut pas lui dire « Mais non, c'est pas ça du tout, votre lecture, c'est complètement faux, vous êtes complètement... » Bon, alors c'est donc le lecteur qui a raison. Et c'est par conséquent le lecteur qui écrit le livre et qui le raconte tel qu'il l'a lu. Donc, il ne faut pas être trop bavard dans les livres. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à votre question.
J'imagine que vous répondez tout à fait, Marcel Cohen. Je vais même rebondir sur l'apparent paradoxe de la question de Grégory, c'est-à-dire à la fois l'idée du silence, mais aussi l'idée de la profusion de menus détails, de précisions dans la description des gestes, d'une manière de restituer quand même des corps, des odeurs parfois, Marcel Cohen, des traits de visage. Et je ne parle pas des photos que vous reproduisez. Comme s'il y avait une cohabitation possible, et même, on va dire, signifiante, entre pas dire, laisser du blanc, laisser du silence, accepter même la part d'oubli, et l'extraordinaire précision de certaines sensations restituées. Ça pourrait paraître paradoxal, vous voyez ce que je veux dire? En fait, non.
Non, parce que il n'y a que des détails. Vous me parlez, mais je ne sais rien de vous, c'est la première fois. Mais je vois très bien vos lunettes, je vois très bien la couleur de votre robe. Ce ne sont que des détails. Je ne sais rien de vous. Quand nous voyons un pompier passer dans la rue, nous ne voyons que l'uniforme de pompier, nous ne savons rien de lui. Donc il n'y a que des détails. Je crois que c'est un leurre monstrueux de penser qu'on peut atteindre l'essentiel, à plus forte raison, s'il s'agit de la vérité, bien que ce mot soit difficile à employer, mettons beaucoup de guillemets, je crois qu'il n'y a que les détails qui nous parviennent, et puis les détails, puisque ce sont des détails, les intéressés ne les surveillent pas. Puisqu'ils ne les surveillent pas, nous pouvons les prendre en défaut et nous pouvons voir ce qui résume quelque chose. Je peux vous donner un exemple de détail qui personnellement me bouleverse et me semble beaucoup plus parlant que tout ce que je pourrais vous dire. Robert Antelme, l'auteur de L'espèce humaine, dit quelque part un journaliste, vous savez, quand on a connu Dachau comme moi, ce qui est important, c'est de changer dans la vie toutes les petites choses que l'on peut changer. Alors le journaliste l'écoute et il comprend pas ce que ça veut dire. Ils vont dans un café, ils commandent deux express, et la petite cuillère de Robert Anthelme tombe par terre. Alors le garçon se précipite pour la ramasser, il court au fond du café pour en apporter une neuve, et Anthelme lui dit « Inutile, inutile, je ne prends jamais de sucre ». Mais le garçon n'a pas entendu, il revient avec une petite cuillère propre. Robert Anthelme ne dit rien, il la plonge dans son café et il tourne. Et le journaliste lui dit « Mais je croyais que vous ne preniez jamais de sucre ». « C'est exact, dit Anthelme, mais je ne veux pas donner au garçon l'impression qu'il s'est dérangé pour rien. » Alors vous vous dites ça, ben voilà, j'ai l'impression de connaître Anthelme depuis des années. J'ai posé la question à sa femme, Monique Anthelme, que j'ai eu la chance de connaître, et elle ne connaissait pas cette anecdote, et elle m'a dit « Marcel, vous savez, Robert était toujours comme ça. » Alors voilà. Voilà un petit détail, c'est une petite fenêtre par laquelle, tout d'un coup, nous avons la révélation d'un homme d'exception.
Donc ça veut dire
une petite cuillère.
Ça veut dire que ni les êtres, ni les souvenirs ne peuvent s'embrasser dans la totalité, Marcel Cohen. Ce sera par des petites pointes, que par des copeaux presque, à chaque fois.
Oui, oui, ça, je crois ça très, très profondément.
Est-ce que c'est ça qu'il faut entendre quand notre auditeur Grégory dit que vous vous méfiez de la littérature, au sens où la littérature, elle aurait comme ça l'arrogance de vouloir embrasser plus large, et que autre chose que vous pratiquez, que moi j'appelle bien sûr la littérature, serait se méfier de cette arrogance-là?
Oui, la littérature est souvent, excusez-moi l'expression, mais imbuvable parce qu'elle est trop prétentieuse. elle est parfaitement logique. Un roman, il y a un début, l'apogée, la fin, ça veut dire quelque chose. On sait où ça va, mais dans la vie, ça ne se passe pas comme ça. On ne sait pas où on va, il n'y a pas vraiment début. La date de naissance ne signifie pas grand-chose. La fin nous échappe. Tout est livré dans le désordre et grâce à des petits détails. Voilà, c'est ça. Nous allons de détail en détail. Bon, nous aimerions bien avoir des certitudes sur les uns, sur les autres, mais il y a toujours quelque chose qui nous échappe et qui échappe par conséquent à la littérature.
Et pour autant, Marcel Cohen, vous agencez les choses, vous les ordonnez dans ce livre-là. Ça nous arrive pas dans un total chaos. Il y a quelque chose quand même de votre écriture qui fait que on va d'un portrait de femme à un autre portrait de femme. C'est pas du tout une mise en ordre.
Alors dans ce livre-là, bien entendu, il y a un ordre par la force des choses, il y a une chronologie, il faut bien commencer par la petite enfance et poursuivre. Mais dans mes livres en général, non, il n'y a pas d'ordre. J'ai toujours rêvé de... parce que c'est comme ça que je lisais les poètes, j'ai toujours rêvé de livres qui n'ont pas de début, pas de milieu, pas de fin.
Oui, vous parlez de libre circulation comme ça.
Libre circulation dans les livres, oui. C'est une expression d'Henri Michaud. Il réclamait ça des auteurs. Libre circulation dans les livres. Moi, je trouve que... Alors, c'est un danger pour l'auteur, mais parce qu'il ne nous prend pas par la main comme un petit garçon, une petite fille qu'on emmène à l'école. Cette libre circulation, l'écrivain évidemment s'expose, on ne voit pas où il veut en venir, et souvent, en tout cas dans mon cas, et il n'a pas l'ambition d'aller quelque part. Donc voilà, j'aime que les livres soient conçus pour s'adresser à des adultes et pas à des enfants.
J'aimerais qu'on écoute un extrait de votre livre « Cinq femmes ». On est dans le moment d'Annette. Le propre propre de la petite enfance que de laisser des images d'une précision absolue, mais dont l'adulte ne sait que faire. Elles n'éclairent rien et font figure d'ornement littéraire dès qu'on les pose sur le papier. Est-il dans la nature du récit de s'égarer dans les méandres alors que nous cherchons quelque chose de solide où prendre appui ? Mathurin, par exemple, était seul à aimer la panade. Faut-il donner la recette de la panade ? Cependant, je revois Annette coupée de fines tranches de pain rassis à l'intention de Mathurin et serrer le quignon contre sa poitrine quand les croûtons secs, conservés dans un petit sac en tissu suspendu à un clou, n'étaient pas suffisants. Je me demandais comment Annette s'y prenait pour ne pas se blesser avec un aussi grand couteau. Sur sa poitrine, la course de la lame s'arrêtait net contre sa blouse bleu clair sans même entailler le tissu. L'image d'Annette est triple et contradictoire. Il existe une Annette en grand tablier bleu clair immaculé dans la cuisine du boulevard de Courcelles. Elle manie avec sûreté la vaisselle en porcelaine blanche bordée de rouge. Il y a la même Annette en blouse grise qui fait le ménage, toujours boulevard de Courcelles, un fichu sur la tête et un plumeau dans sa poche. Et il y a enfin l'énergie farouche d'Annette, manche relevée à Messac, un pied sur la margelle de la cheminée, puisant des louches d'eau fumante dans le grand chaudron noir pour laver la vaisselle. Lorsqu'elle tisonnait, les bûches affaissées entre les chenets, elle me demandait toujours de reculer parce que les braises sautaient sur le carrelage, parfois jusqu'au milieu de la pièce. Dans la cuisine de Messac, seule pièce chauffée de la maison, l'environnement renforçait l'image d'une Annette costaude, volontaire, dure, à l'exact opposé de son double parisien et bien entendu de Marie. Hachoir, grand couteau, billot, fourchette à deux dents et long manche avec laquelle Annette puisait dans la marmite fumante au-dessus des flammes, tisonnier, pince rougie pour avoir fourragé dans les braises de la cheminée, tout était devenu un peu effrayant autour d'Annette. Un extrait de votre livre « Cinq femmes » lu par Jeanne Agrappa, Marcel Cohen. Peut-être pour qu'on parle de la manière dont vous avez recomposé ou composé quelque chose qui peut s'apparenter, je ne sais pas, si on peut dire un portrait d'ailleurs, ce serait être trop arrogant, mais il y a quelque chose qui vit de ces cinq femmes-là. Comment ça s'est passé ? Est-ce que vous avez seulement laissé faire la mémoire ? À quel point vous avez enquêté ? Et peut-être ce fut différent pour les cinq femmes.
Alors, j'ai beaucoup enquêté, et pas seul. Des amis m'ont aidé pour retrouver Annette, puisqu'Annette, je l'ai vue pour la dernière fois, j'avais 7 ans. Donc il a fallu enquêter, je ne savais rien d'elle. Je ne connaissais que son prénom d'Annette, c'est peu. Ni son nom de famille, ni son nom de femme, ni son nom de jeune fille, ni son nom de femme, bref, rien. Pour les autres portraits, non, je n'ai pas voulu construire quelque chose, je n'ai pas voulu peindre comme le ferait un peintre professionnel. J'ai laissé les souvenirs venir s'agglutiner les uns aux autres. Ça n'a pas été un travail très difficile. Comment dire on a beaucoup plus de souvenirs qu'on ne peut en utiliser dans un livre. Donc...
Et que parfois on le croit. Est-ce que vous diriez ça, Marcel Cohen ? Peut-être que l'aventure de l'écriture, c'est se rendre compte de la multiplicité des souvenirs qu'on a quand on ne sait même pas toujours les avoir.
Oui, on ne sait pas ce que l'on sait. on ne sait pas l'étendue de notre savoir. Et il faut donc... je crois laisser les choses surgir comme cela. Et on ne sait même pas, ça a été une grande, grande découverte pour moi. Je pensais que je serais incapable de reconnaître Annette, que j'ai donc vue pour la dernière fois à l'âge de 7 ans, sur une photo. Son visage était tout à fait nébuleux. Et des amis qui m'ont aidé dans mes recherches m'ont montré une photo d'un mariage qui a eu lieu dans les années 30, époque où j'étais pas né encore, mais ce mariage, on me dit, vous savez, Marcel, Annette est nécessairement sur cette photo, parce qu'elle connaissait les uns les autres pour ça. Est-ce que vous pourriez la reconnaître ? Et j'ai regardé attentivement chaque visage et je me suis dit, oui, c'est cette femme, la femme au chapeau, là. Or, voilà, plusieurs décennies plus tard, un enfant n'a pas oublié le visage qu'il a vu pour la dernière fois à l'âge de 7 ans. C'est émouvant, je dis ça sans aucune espèce de gloriole, mais je pense que nous sommes tous dépositaires de choses comme ça que nous ignorons et qui sont très émouvantes.
Mmh. Oui, en effet. Qu'est-ce que ça vous fait, Marcel Cohen, de voir réunies ces cinq femmes dans un livre ? Je ne sais pas si c'est le texte en préambule du premier tome de La scène intérieure, mais en tout cas, dans un récent entretien, ou dans ce texte-là, j'ai oublié, vous dites que finalement, peut-être, on prête, ou les écrivains et écrivaines prêtent trop d'importance aux stèles que sont les livres dans nos bibliothèques, que ce qui s'y écrit, ce qui s'y conserve, va disparaître dans le silence, au même titre que ce qui n'est pas écrit. C'est cruel pour la littérature, c'est cruel presque pour ce geste-là. Moi, qui ne connaissais rien de vous ni de ces cinq femmes, j'ai pourtant été bouleversée de les voir réunies dans un livre. C'est bien que ce n'est pas rien, ce geste-là, que c'est un acte quand même.
Ah, c'est un acte, pour moi, c'est un acte même très fort. Les livres ne disparaissent jamais tout à fait. Même quand on ne les lit plus du tout, ils sont quelque part dans des bibliothèques, et ne serait-ce qu'à la Bibliothèque nationale, puisqu'il y a un dépôt légal. Comment dire ? Et puis je pense aussi à autre chose. Je pense à un vers de René Char qui dit « Dans mon pays, on dit merci ». Alors... voilà, je pensais qu'il fallait dire merci à ces femmes. Et puis, l'ami, enfin, mon voisin de table inattendu dont je parlais
qu'il
tout à
soit
l'heure.
Qu'il en soit remercié lui aussi.
Je pense qu'il m'a rendu grand service en me disant qu'il fallait écrire sur ces femmes.
Vous mettez une phrase en exergue de ce deuxième tome de La scène intérieure. Les uns et les autres, aussi bien ceux qui ont occupé avec éclat le devant de la scène que ceux qui ne sont présents que sur notre scène intérieure. Elle est signée Jean-Bernard Pontalis. On va écouter une archive de Jean-Bernard Pontalis.
Non seulement l'analyse, mais en un sens la vie, nos vies, on cherche après coup à lui donner une certaine continuité. Surtout quand on écrit l'autobiographie, on l'écrit toujours à partir du présent, mais on essaye, enfin beaucoup essayent, de montrer que ce qui est arrivé plus tard était déjà anticipé au départ. Or, nos vies sont discontinues, non seulement parce qu'on peut plus ou moins les diviser en certaines périodes, enfance, adolescence, maturité, vieillesse, mais parce que notre mémoire ne retient pas, n'est pas une mémoire, ça ne voudrait rien dire d'ailleurs, tout garder en mémoire. Donc elle garde quoi ? Quelques souvenirs auxquels nous sommes attachés, qui nous sont précieux, et puis surtout ce que j'appelle après d'autres, des traces, souvent des traces minimes, des traces sensibles, une odeur, quelque chose qu'on a touché, un moment de vie. C'est notre mémoire vivante est faite de ça, notre mémoire vive est faite de ces traces.
Bon, voilà, c'est une archive, on l'entend un petit peu trop de loin. Jean-Bernard Pontalis, il est dans un entretien avec Isabelle Mercamaheu. Pourquoi est-ce que vous teniez à faire figurer la voix ou les mots de Pontalis en exergue de ce livre, Marcel Cohen ?
Alors, parce que Pontalis a été très, très important pour moi. Il a été mon lecteur assidu pendant une vingtaine d'années chez Gallimard. Et puis, il a publié le premier livre de Sur la scène intérieure. Et Sur la scène intérieure, ce n'est pas un titre de moi, c'est un titre de lui. C'est un titre que j'ai trouvé sur le rabat de couverture de la collection qu'il animait, qui s'intitulait L'un et l'autre. Et comme vous le lisiez tout à l'heure, L'un et l'autre, c'est aussi bien les personnages qui ont occupé le devant de la scène que des personnages qui ne sont présent que sur notre scène intérieure. Le terme de scène intérieure ne surprend pas chez un psychanalyste, mais il me semblait parfaitement convenir à mon premier livre. Et voilà, donc je lui dois aussi le titre de ce livre.
On l'entendait dans cette archive parler du désir de continuité, de la construction dans l'après-coup, d'avoir comme ça presque malgré soi l'envie qu'il y ait un ordre. On parlait tout à l'heure de l'arrogance de la littérature, mais c'est aussi notre arrogance humaine que de vouloir tracer un chemin, Marcel Cohen. Est-ce que c'est tout de même ce que vous faites avec Cinq femmes ?
Alors, c'est sans doute le livre qui me tient... Le plus à cœur, parce que, avec un peu de recul, quand on vieillit, on a un petit peu de recul, c'est un petit peu comme si on était juché sur un petit tabouret, alors on voit les choses d'un petit peu plus, d'un peu plus loin. Alors, mes livres d'écrivains sont bons, sont mauvais, c'est plus très important, puis qui sont derrière moi, mais... le premier volume de Sur la scène intérieure, où il est question de ma famille disparue, m'importait évidemment. Et puis, ce livre qui le continue m'importe plus que tout aussi. Je pense que nous devrions tous, un jour ou l'autre... nous décider à dire merci, à régler nos comptes parfois. Parfois, on a eu des personnages tout à fait néfastes dans notre vie qui nous ont brisé les jambes. Est-ce qu'il ne faut pas un jour leur dire ce qui leur revient ? Moi, je pense que oui, il faut régler ses comptes.
Mais je reviens aussi sur l'idée de la continuité soulevée par Pontalis comme étant une sorte de désir aussi, au sens moteur des humains, à partir des bribes, à partir des accidents, essayer de pouvoir raconter une vie. C'est aussi ce que dit Pontalis, tant en analyse qu'en littérature. Et je me demande dans quelle mesure une vie aussi heurtée par l'histoire que fut la vôtre, notamment une enfance aussi heurtée par l'histoire que fut la vôtre, ne se prête pas encore plus à ce désir de rassembler... tout à l'heure, je parlais des copeaux, mais... rassembler ce qui peut être quand tout a été si explosé.
Alors, je crois que ce n'est pas possible. Dans le sens où vous semblez l'entendre, ma propre vie n'est pas saisissable. Mon enfance m'échappe totalement. Ma vie n'est pas saisissable parce que... j'appartiens à une génération d'écrivains qui née juste avant la guerre, n'a rien à raconter. Après la Shoah, de quoi voulez-vous que je parle dans mes livres ? De mes premières amours enfantines, ça ne m'appartiendrait pas. C'est pas ce qui caractérise ma vie. Ce qui caractérise ma vie, c'est sans doute une forme d'écrasement qui fait que ma propre biographie ne me représente plus. Je crois que les déterminations extérieures sont telles que mes goûts personnels, mon cheminement personnel dans la vie n'a pas beaucoup d'importance. Milan Kundera fait déjà cette différence avec beaucoup d'acuité et beaucoup d'intelligence à propos de Proust et de Kafka, qui sont deux exacts contemporains, puisque l'un meurt en 1922, l'autre en 1924. Or, Kundera dit, si pour Proust, un personnage est, comment dire, entravé à jamais par, je ne sais pas, par un grand chagrin d'amour ou par des tendances homosexuelles qui le gênent énormément dans la vie de tous les jours. Quelle importance cela a encore pour un héros de Kafka ? Aucune. Dans le château, K, le héros, n'a même pas d'identité. comment dire. Et Kundera a une très belle formule. Il dit l'œuvre de Proust est une comète de beauté pure, mais qui s'éloigne de nous à jamais. Et nous sommes aujourd'hui dans le monde de Kafka. Il y a eu une grande exposition consacrée à Kafka au Centre Pompidou il y a quelques années. Ça s'appelait « Le siècle de Kafka ». Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, pour un combattant de 14-18, d'avoir des tendances homosexuelles ? Rien. Il est mort comme 700 000 autres garçons de son âge à Verdun. Vous voyez ce que je veux dire ?
Je vois tellement ce que vous voulez dire que je ne suis pas d'accord.
Oui.
En tout cas, qu'il y a une part avec laquelle je ne suis pas d'accord. Et je trouve qu'il y a quelque chose de vous, aussi comète soit-il, qui apparaît dans ces textes-là, Marcel Cohen, et qui, en tout cas, auquel il me semble pouvoir accéder. Donc, c'est peut-être la manière que vous avez d'écrire, mais il ne me semble pas que vous vous absentez totalement de ces textes-là.
Alors... ma manière à moi de me faire reconnaître dans mes livres, comme vous me reconnaissez, c'est peut-être de disparaître autant que possible en tant qu'auteur, de vous laisser, comme nous le disions tout à l'heure, le plus d'espace possible.
Et en tout cas, ça nous arrive. Merci beaucoup. 5 femmes apparues aux éditions Gallimard. Restez avec nous, Marcel Cohen.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Restez avec nous car j'arrive en retard, mais le lundi d'habitude, Emmanuel Laurentin arrive à 15h50. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Marie.
Vous ouvrez des livres pour nous en fonction d'un fait d'actualité. La ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche, Sylvie Retailleau, a confirmé vendredi dernier dans votre émission qu'un plan de soutien aux doctorants, communément appelé les thésards, allait les aider à entrer plus facilement dans le marché du travail. Oui, mais
avant d'entrer dans le travail, il faut savoir terminer une thèse. C'est ce que nous a raconté une vraie thésarde dans l'histoire, Anne Urbain, dans un savoureux roman paru il y a presque 3 ans, dont le personnage principal, Antoine Thérieux, a bien du mal à boucler son doctorat. La soutenance, le roman d'Anne Urbain, paru aux éditions de l'Olivier, s'ouvre sur les affres d'Antoine, qui ne parvient pas à annoncer à sa mère, malade d'un cancer du larynx, que cette recherche en histoire du livre lui pèse. Ou alors, il y a les Franco, se dit-il en ramenant en voiture sa mère de l'hôpital. Un bon octosyllabe, honnête, direct. « Je ne vais pas finir ma thèse », ou plus long. « Maman, je ne vais pas finir ma thèse ». Tout au long du trajet dans Paris, il rumine son annonce, qui finalement ne vient pas. Pourtant, son directeur de thèse lui a bien répété « Il faut passer à la rédaction maintenant ». Mais Antoine ratiocine, procrastine, se love dans la salle T de la Bibliothèque nationale de France, a commandé de nouveaux documents et a reculé l'écriture de cette thèse.
Bon, à vous entendre, Emmanuel, on a l'impression qu'on ne va jamais la lire, cette thèse.
Disons qu'elle avance par à-coups, c'est le moins qu'on puisse dire. Antoine entame fiévreusement sa rédaction en s'installant dans un café à l'américaine de la rue de Provence à Paris, à coups de coco latté. Mais paf, malheureusement, le groupe décide de fermer la plupart de ses succursales en France et Antoine repart dans sa dépression. Il doit pourtant terminer sa rédaction avant la fin de l'été. Le calcul fut vite fait, écrit Anne Urbain, 66 jours le séparaient du 31 août. 66 jours pour 160 pages, soit 2,5 pages par jour en moyenne. S'il venait à la bibliothèque tous les matins, disons 5 heures d'affilée, avec l'objectif d'une page toutes les 2 heures, c'est faisable. Atroce, mais faisable. S'il était capable d'écrire dans la saleté, sans faillir, sans commander n'importe quoi, sans vérifier 3 fois ses propres vérifications, s'il tenait la cadence, il finirait. Mais avant cette date fatidique, son frère arrive à Paris et s'installe chez lui.
Et ça l'aide pas du tout, Emmanuel ?
Pas du tout, parce que Antoine surveille son frère Daniel, en pleine dépression lui aussi, et ça le distrait de son but. Le nom d'un des personnages de sa thèse, par exemple Gaston Lablatte, conseiller à la cour d'appel de Colmar, qui emmène notre doctorant vers Kafka et sa métamorphose. Et voilà, l'esprit d'Antoine avait encore taillé la route, c'était plus fort que lui. S'il ne respectait pas scrupuleusement sa discipline, il était sûr de partir en vrille. Et s'il avait accès à Internet, c'était la débâcle assurée, de fil en aiguille, de lien en lien. Il se perdait en extravagance magnifique, qui bien entendu à l'arrivée ne produisait pas la moindre ligne.
Donc là vraiment c'est sûr, la soutenance de la thèse n'est pas pour demain.
Eh bien, de soubresaut en pas de côté, notre Antoine avance tout de même. La date de la soutenance est fixée définitivement et un matin, un cri dans l'appartement. Putain, l'index. Il a oublié l'index de sa thèse. Il mobilise alors sa compagne danseuse de K-pop et son frère dépressif. Si Dedan faisait les Samaritains de choc, de vraies machines de guerre, leur voix forte et mécanique résonnait d'un bout à l'autre de la pièce. Pierre Ottavioli, O-T-T-A-V-I-O-L-I, page 47, 104, 109, 880. C'est bon pour moi. Pierre Macorlan, M-A-C espace O-R-L-A-N. C'est quoi ce nom, Antoine? Un pseudo d'écrivain. Pierre Dumarché, en vrai. On met Dumarché, alors? Comment ça s'écrit? Non, on se fout de Dumarché. Personne ne connaît Pierre Dumarché. Personne ne connaît Mac Truc non plus. Car c'est cela, la thèse. Telle que les doctorants, comme l'a été l'autrice de ce roman, la racontent après coup de grands moments d'enthousiasme, interrompus de périodes de découragement, pour enfin aboutir. En 10 ans, le nombre de doctorats est en baisse continue en France. À lire La Soutenance d'Anne Urbain, on imagine parfois pourquoi. Voyons si le gouvernement saura parvenir à inverser cette tendance funeste.
Vous fûtes thésard, vous, Emmanuel Laurentin ?
Eh bien non, je me suis arrêté avant la thèse. J'ai fini une maîtrise d'histoire médiévale. Et puis, je n'ai pas eu les moyens de commencer ma thèse. Et donc, j'ai arrêté avant même de l'avoir entamée. Je devais faire une thèse sur les souverains de Lusignan pendant les croisades dans le Proche-Orient, c'est-à-dire du côté de Chypre, de Jérusalem et de Petite Arménie. Mais d'autres l'ont fait depuis.
Vous fûtes thésard, vous, Marcel Cohen ?
Comment, pardon ?
Vous avez soutenu une thèse ?
Non. Non, pas du tout. Non, j'ai toujours, comme je vous le disais, j'ai appris à lire en grande partie dans France Soir et je voulais être reporter. C'est la seule chose qui m'est motivé. Et voilà, je suis donc passé par une école de journalisme et puis j'ai toujours été gagné ma vie comme reporter.
Voilà, donc on est dans le club des trois personnes qui se sont juste arrêtées au bord de la thèse. Merci beaucoup Emmanuel Laurentin. On retrouve Lecture d'actualité sur franceculture.fr. Mais c'est l'heure des pages musicales. Tous les jours, on demande à nos auditeurs de nous aider à trouver de la musique dans les livres. Alors, il y en avait dans le vôtre, Marcel Cohen. Il y en a aussi dans un livre choisi par Sandra. Le livre s'appelle Requiem pour une Apache. C'est un livre de Gilles Marchand paru en 2020 aux Forges du Vulcain. L'éditeur en parle comme d'une ode à l'amitié, à la solidarité, à l'idéalisme et au réalisme, un texte poétique et politique. On a écrit beaucoup de choses sur elle. On l'a comparée à Marianne et à Louise Michel. On en a fait une espèce d'héroïne née pour défendre la veuve et l'opprimée, ou selon le point de vue, une dangereuse anarchiste prête à embrocher du bourgeois. La Joline que j'ai fréquentée tenait des deux. Mais de loin, nous sommes une petite dizaine de personnes à l'avoir connue de près. Certes, sur une courte période, quelques semaines à peine, qui nous ont marquées à jamais. Joline. C'est nous qui avions choisi ce surnom. Elle apparaissait, mettait une pièce dans le jukebox et la chanson de Dolly Parton résonnait dans toute la salle. Joline. Un prénom d'ailleurs pour une inconnue venue d'ailleurs. Joline. Assez grande, brune, pantalon large, gros pull en laine, lunettes aux verres épais. Une pièce sur le comptoir pour un café ou une bière selon l'heure. Pas une parole inutile, pas un sourire qui ne sert à rien, mais un « s'il vous plaît » et un « merci ». Joline, un surnom qui ne plaisante pas.
Joline, Joline, Joline. Because you can. Your beauty is beyond compare.
Celle qui danse et qui faisait le son aujourd'hui, c'était Marie-Claire Roumabadi à la réalisation Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club qui se réécoute sur franceculture.fr. J'ai nommé Jeanne Agrapard, Anouk Delfino, Oriane Delacroix, Léa Weiss-Grus, Marianne Chassor, Mathilde Wagman, Jana Léos, Didier Pinault et Alexandre Alaï-Begovic. Très bel après-midi sur Culture.